La télé buissonnière, un média documentaire et participatif en Ariège.
Bonjour à tous les auditeurs de Radio Transparence, on se retrouve aujourd'hui pour l'émission de la télé buissonnière. Aujourd'hui je suis avec Philippe et Valérie, bonjour.
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 D'abord un point actu, la mise en ligne des films de radioscopie tournée à Pamiers dans le quartier de Loumette sera disponible sur le site de la télé buissonnière la semaine à venir. Valérie, peut-être que tu peux nous présenter les films qui seront mis en ligne.
Oui, alors donc il y a 4 films là qui ont été réalisés par Elsa et Marie, donc qui ont commencé à travailler depuis septembre sur Loumette, avec dans le cadre de cette radioscopie d'un quartier par ses habitants, puisqu'elles ont fait du porte à porte, et puis elles ont préparé plusieurs films avec des collectifs. Donc il y a un film qui a été réalisé avec Volonté de Femmes en Ariège sur leur quartier, qui parle effectivement de ce quartier de Loumette à travers une balade que les femmes ont filmée elles-mêmes. Il y a un autre film que l'on retrouve, où on va découvrir ces jeunes qui sont au foyer intergénérationnel de Loumette. On va découvrir un petit peu, ils nous font partager leur quotidien. C'est pareil, c'est un film qui a été travaillé en atelier et qui leur permet aussi de montrer un petit peu leur rapport aussi au quartier, aux habitants, à leurs voisins en fait. Et puis ensuite, on a 2 films réalisés par les réalisatrices de Caméra au Point. Un qui a été tourné dans le parc, le fameux jardin public de Pamiers, où beaucoup d'habitants passent. Et effectivement, Marie et Elsa ont posé leur caméra dans le parc et ont été à la rencontre des habitants. Donc là aussi, il y a quand même un travail de participation, puisque c'est les personnes qui vont choisir le lieu où elles sont interviewées. Il y a même un jeu avec un cadre en bois qu'elles ont fabriqué, qui se balade dans le parc et qui leur permet de proposer à chacun de se mettre en scène dans ce parc et de leur raconter le lien à cet endroit. Donc là, c'est aussi beaucoup de jeunes gens qui prennent la parole et qui, on sait que souvent on rencontre des lycéens dans ce parc, mais pas seulement, il y a les jeunes qui le fréquentent et qui vont dans ce petit poumon vert de la ville. Donc voilà, et puis c'est le Grand Bazar, ce qui est un magasin assez connu à Pamiers, un lieu très chaleureux
le Big Bazar.
Le Grand Bazar, c'est, non, ça serait autre chose, le Big Bazar. Et vous verrez un tournage en partie en GoPro, mais à l'intérieur de ce lieu, et où on va rencontrer aussi la question du commerce de proximité dans les centres-villes. On sait qu'en Ariège, c'est une problématique récurrente dans nos villes, mais aussi plein de personnages, en particulier le patron des lieux qui nous accueille et qui nous fait vivre un peu ce qu'il partage avec les habitants du quartier. Voilà, je crois qu'on peut dire ça. Et puis,
donc aujourd'hui, on va découvrir le premier épisode de la série Éco-éléments que l'on va pouvoir écouter, qui parle du métal, une histoire de forge en faillite.
Nous sommes arrivés il y a 7 ans, j'y tiens.
7 ans, oui c'est ça, 2011.
Voilà.
Décembre 2011, pourquoi parce qu'on est tombé amoureux. Je suis tombé amoureux de l'Ariège. Oui. Voilà, c'est un pays magnifique. C'est vraiment, il y a tout ce qu'il faut. On est loin de tout et près de tout. On cherchait des vieilles pierres, on cherchait de l'eau.
Et du terrain.
Et on a trouvé des vieilles pierres, parce que c'est les anciens martinets avec des forges qui sont de l'autre côté. Une rivière qui fait 1 km et de l'eau partout et 5 hectares de terrain. Donc le rêve, pour l'instant. Parce qu'avec l'âge, ça commence à devenir un peu difficile d'entretien, mais c'est vraiment un coin féerique.
Si, je cherchais des chambres d'hôtes déjà. Je voulais créer des chambres d'hôtes, mais elles étaient déjà faites, c'était la cerise sur le gâteau.
Ce bâtiment était ce qu'on appelle les martinets. Les martinets, ce sont des gros marteaux pilons. Et il y avait 5 martinets dans ce bâtiment. Et un peu plus loin, et vous avez les forges. Enfin, ce qui reste des forges. Il y avait deux fourneaux. Toute l'énergie utilisée était des roues ou des trompes ou des soufflets. Et tout marchait avec la puissance de l'eau. Il y a un barrage avec un canal qui alimente toute la propriété, qui alimentait toutes les parties nécessaires pour utiliser l'énergie hydraulique. Ce que je sais, ce que j'ai retrouvé dans les documents, c'est que la forge, au départ, est dans la vallée de la Freite, dans un lieu dit Carniès. Et le problème de cet endroit, c'est que c'est un endroit, à l'époque, relativement isolé. Donc, possibilité de fraude, possibilité de même difficulté de travail. Et dans les années 1800, ils ont décidé de déplacer cette forge et de la descendre sur la rive de la Courbière. L'autre outil ici était sur la rive de la Courbière, et là, sur la rive de la Courbière, près du village. Plus facile d'accès, plus facilement contrôlable. Et ce bâtiment et la forge ont été construits dans les années 1800. Là où on est, juste autour de nous, j'ai un superbe plan. Et en fait, cette pièce, dans toute la pièce ici, pas seulement la pièce, dans toute la maison, il y avait 5 martinets. Il y avait 5 martinets. 5. Qui utilisaient l'eau pour faire tourner les roues à aubes. Et à l'intérieur, vous aviez, pour chaque martinet, vous aviez un fourneau pour entretenir les pièces chaudes. Et sur place, il y avait 3 personnes qui faisaient marcher le martinet. Le forgeron, qui était accroché avec un siège satellite au plafond, pour tourner autour du marteau, parce que le marteau, c'est quelque chose qui fait entre 150 et 450 kg, donc c'est plutôt le forgeron qui tourne autour du marteau que le marteau qui tourne. Vous aviez le maître d'eau, c'est-à-dire que c'est lui qui, en fonction de ce que fait le forgeron, en fonction de la couleur du métal, c'est vraiment le maître d'eau, c'est vraiment quelqu'un qui est aussi important que le forgeron. Et il faut à peu près 5 ans pour former un maître d'eau. Et voilà le type d'outils qui était fabriqué. Essentiellement, voilà, ça c'est une pelle, c'est une ébauche de forge de pelle forgée.
Elle est trouvée ici, hein.
Je pense que celle-là a été trouvée ici parce qu'on l'a trouvée dans la maison, donc celle-là vient d'ici. À côté, vous avez la forge, qui est une forge dite catalane, donc un bas fourneau avec au départ, il y avait un bas fourneau. Pareil, avec un martinet pour concasser le minerai de fer. Le minerai de fer qui vient essentiellement de la mine du Rancier à côté de Vitte de Sceaux. Les autres mines qui sont à ciel ouvert, il y en a un peu partout, c'est de moins bonne qualité. On peut dire que la forge produisait environ 17 tonnes de fer dans les années 1711. Et c'est monté jusqu'à presque ce qu'il donne, c'est ça. En 1856, les deux feux de la forge, c'est-à-dire il y avait deux feux de la forge, produisaient 320 000 kilos de fer. Donc 320 tonnes de fer. C'est quand même énorme. En comparaison par rapport à la forge qui était dans les années 1700 à Carniès, la forge n'employait que 8 personnes. Et là, on arrive quand même à presque 20 personnes. C'est énorme pour le 20 personnes sur la forge. Presque autant, voire plus ici sur les Martinets. Donc c'était un gros site, on va dire, un gros site industriel. De toute manière, les forges se sont arrêtées, toutes les forges dans le sud, dans le sud-ouest, toutes les forges dites catalanes se sont arrêtées avant 1900. En 20 ans, il n'y a plus eu de forges dans le sud-ouest, compte tenu des rendements des bas fourneaux par rapport à ce qu'ils avaient trouvé au fourneau. Et la deuxième chose, c'est la Lorraine qui démarrait avec un minerai de fer et du charbon, donc tout sur place pour faire de l'acier. Beaucoup plus rentable. Et ici, les voies de communication n'étaient quand même pas ce qu'elles sont maintenant. Et donc les forges se sont arrêtées, oui c'est ça, dans les années 1890 à peu près.
Je ne sais pas trop comment vit l'Ariège actuellement. Et enfin, d'après moi, ce que je vois, hein, les gens que je connais autour, hein, ce sont des apiculteurs, ce sont des gens qui élèvent des animaux, ce sont des gens qui ont des chambres d'hôtes. Et parce que le tissu industriel, bon, ben, on va dire que c'est pas tout à fait ça. Mais le tourisme, ça peut apporter quelque chose, ça peut permettre aux gens de rester sur place. Maintenant, une chambre d'hôtes, c'est pas... Il ne faut pas prendre une chambre d'hôte comme un revenu alimentaire, sinon vous en devenez esclave.
On pourrait en vivre, effectivement. Oui. Il faudrait travailler tous les jours,
Et ça devient... Écoutez, les chambres d'hôtes ici, bon, moi je suis à la retraite, donc j'ai ma retraite. On pourrait vivre sur ma retraite. Mais les chambres d'hôtes, en fait, nous arrivent à nous payer tout ce qui est charge. Tout. Le chauffage, les impôts, arrivent à nous payer tout ça. Et donc, nous, quand on a, dans notre optique, quand on arrive à cet objectif, bon, on lève le pied. C'est-à-dire que c'est pas la peine de... Je vous dis, on ne thésaurise pas, parce que j'ai ma retraite. Mais c'est vrai que des gens qui veulent faire que chambre d'hôte...
Surtout les jeunes.
C'est difficile.
Puis il y a des gens qui se sont endettés aussi, il ne faut pas l'oublier, pour faire des chambres d'hôte. Ce qui s'était passé avec nos anciens propriétaires.
C'est un problème d'endettement.
Donc, si vous vous endettez, en plus, il faut rembourser les crédits et tout ça. Mais que nous, on n'a pas eu ce souci-là.
Parce que souvent, celle-là, elle est un peu plus...
Donc, voilà, je vous explique. Tenez, on va se mettre ici. Je vous montre sur le... On va se mettre sous le billard, je vous montre. Voilà.
Celle-là, elle a vécu.
Elle est utilisée.
Elle est utilisée, ouais.
Vous voyez ?
Celle-là, la route des plateaux de Baye.
C'est ça. Là. Et ici, quand vous vous baladez ici, là... Une chambre d'hôte, il faut que ça reste du plaisir. Plaisir de recevoir les gens. Plaisir de faire connaître la région.
De plus, je pense qu'il faut aimer les gens. Ouais. Si vous n'aimez pas les gens, si vous n'aimez pas les intrus chez vous, comme disait ton frère,
oui.
C'est... Non.
C'est difficile.
Thank you.
Retour en studio après ce film réalisé par Valérie. Peut-être que tu peux nous expliquer le concept de la série Éco-éléments qui vient tout juste de démarrer.
Voilà, là c'était donc le premier d'une nouvelle série. Effectivement, on a eu envie de travailler plus sur l'histoire et l'économie. Et en partant un peu de l'idée que depuis des décennies, des centaines d'années, même des millénaires peut-être, certainement, dans le cas du métal, les ressources naturelles de l'Ariège, elles sont à la base d'activités humaines, de métiers, et que ces métiers, ces activités, elles ont perduré. Mais elles se sont transformées au fil des décennies. Et donc, ça, c'était un petit peu la base. Donc, effectivement, il y a une grande ambition qui est de faire une série sur le métal, peut-être une sur le bois, peut-être une sur autour de l'eau, etc. Bon, voilà, après, on va faire au fur et à mesure de nos capacités, de notre temps et de nos moyens. Mais la première, c'était celle-là. Et donc, vous l'avez compris, on évoque à la fois un lieu actuel, parce que l'idée, c'est pas non plus de faire un documentaire historique pur, hein, avec juste un historien qui raconterait, mais toujours d'aller dans des lieux vivants et qui nous parlent aussi de l'Ariège d'aujourd'hui et de remonter le fil du temps. Donc, le fil du temps, justement.
Donc, ici, on est allé aux forges d'Amphalite qui sont transformées aujourd'hui en chambres d'hôtes, voilà. Comme expliquent Gérard et Régine dans le film. Comment tu peux expliquer ce parallèle entre les démonstrations de Philippe aux forges de Pyrène et le lieu de tournage dans cette chambre d'hôte?
Alors, je ne sais pas si les auditeurs d'ailleurs, parce que alors déjà qu'à l'image, c'est joué de façon mystérieuse. Alors, au son, là, il faut imaginer que les gens, ils n'ont eu que le son de la forge, hein, ce qui est assez joli, parce qu'effectivement, c'est une vraie identité sonore. Mais c'est vrai qu'ils ont pu encore plus difficilement deviner, parce qu'en fait, on ne sait qu'on a tourné aux forges de Pyrène avec Philippe qu'au moment du générique. Alors, effectivement, l'idée, c'était d'emmener le spectateur ou l'auditeur dans un voyage dans le temps et de restituer dans ces forges actuelles et cette ancienne petite usine, hein, de Martinet qu'étaient les forges d'Amphalite et qui, donc, comme tu l'as dit aujourd'hui, il n'en reste plus rien de cette économie-là, des forges. Dans le film, si vous irez voir certainement les images, peut-être après avoir entendu les sons, mais aujourd'hui, c'est une bâtisse, une maison. Et c'est en allant... Donc, j'ai sollicité les forges de Pyrène, Philippe, pour nous amener à faire ce voyage dans le temps. Et c'est pour ça qu'on t'a contacté et que tu nous as accueillis. Et donc, pour dire, on a fait... Est-ce que tu peux te présenter, peut-être, Philippe, pour les gens qui ne te connaissent pas, même si beaucoup te connaissent en Ariège, et expliquer comment, dans ce lieu, les forges de Pyrène, vous avez à la fois cette approche historique et en même temps cette approche d'accueil du public et en même temps de réalité du métier, parce que tu es forgeron.
Voilà. Les forges de Pyrène, donc, c'est un lieu très ancien. La forge elle-même date du début du XVe siècle, a vécu très longtemps. Et depuis une vingtaine d'années, le site a ouvert en tant que musée, parc, consacré aux métiers anciens, avec comme base, bien sûr, cette forge-là, qui fonctionne et qui, en fait, permet aujourd'hui au public de voir comment c'était donc dans ces forges autrefois. Ce bâtiment-là est un des rares à avoir été conservé. Il n'a pas été transformé, si, bien sûr, un musée, mais en général, les forges d'autrefois qu'on trouvait, il y en a eu énormément dans l'Ariège actuel, pendant des siècles. Ce sont souvent des maisons, des résidences secondaires, des campings, des chambres d'hôtes, en effet. Les lieux, souvent, s'appellent toujours la forge, la mouline ou autre. La toponymie, donc, a conservé ces lieux anciens. Et à Montgaillard, donc, on a la chance d'avoir conservé le lieu et qui, donc, tu parlais des coups de marteau, du son. C'est vrai qu'on se remémore ce bruit qui était commun aux anciens, ce son lourd des marteaux qui, qui jour et nuit battait la cadence, la vie, le rythme de la vie des anciens Ariégeois. Dans toutes les vallées, pratiquement, on entendait ce son. Et aujourd'hui, donc, à la fois, on peut montrer ça, mais en plus, ça permet aussi au personnel qui s'occupe de la machine et qui s'en servent de retrouver les sensations et les techniques d'autrefois.
Oui, parce que en fait, moi, ce que je trouve vraiment particulier, on trouve, je pense pas ça partout, c'est que c'est à la fois un lieu d'accueil touristique, mais en fait, vous êtes, pour la plupart d'entre vous, des spécialistes, vous avez une vraie pratique et vous êtes dans une approche du métier de passionné, quoi. Donc, vous transmettez quelque chose quand même dans ce lieu qui est au-delà du musée. Puis, tu le disais, la forge, dans la partie, en tout cas, ancienne, hein, dans laquelle on a fait la plupart des images, elle est telle qu'elle. Enfin, on rentre vraiment dans une forge. Donc, on voit tout de suite qu'on n'est pas dans un lieu reconstitué ou trop... Enfin, moi, j'ai pas l'impression qu'il est arrangé. On voit... Enfin, on est dans l'univers tel qu'il était. En tout cas, effectivement, peut-être plus au 19e siècle qu'au 14e, mais...
Oui... en effet, la forge a évolué et lorsqu'elle a fermé ses portes dans les années 80, elle était depuis un siècle à peu près, elle était une fabrique d'outils, un martinet spécialisé dans la taillanderie, c'est-à-dire la fabrique d'outils à tranchant ou autre. Mais lorsque ça a fermé, en fait, les derniers ouvriers, eux ont pris la retraite à ce moment-là. Et lorsqu'on a ouvert le site quelques années plus tard, on les a fait venir. Et bien sûr, ils nous ont expliqué comment ça fonctionne, comment réparer certaines pièces de la machine, comment gérer la chauffe du métal, comment forger avec la machine ou avec un marteau. Et c'est au fil des mois, des années, que, avec de l'entraînement, ces choses-là reviennent. On apprend. On apprend tous les jours.
Et donc, dans l'histoire, qu'est-ce qui a pu être construit dans ce type de forge à la catalane? Est-ce que c'est toujours les mêmes outils qui ont été construits au fil des siècles ou il y a eu une évolution
Oui, alors ces forges-là avaient plusieurs types de production. Ça existe depuis l'extrême fin du XIIIe siècle, très certainement. Ces forges qu'on appelait alors des moulines.
On retrouve ce nom-là souvent en Ariège, hein, dans les lieux dits.
Et oui, oui, oui. Alors, ces forges, on les appelait des moulines jusque vers entre 1500 et 1600. Plus tard, la mode change, on trouve la trace des martinets et des fargues ou forges. La technique évolue, se perfectionne, et donc il y a eu une évolution bien sûr au fil des siècles, mais c'était le principal travail, si vous voulez, c'était la fabrication du fer lui-même, en raison de la proximité des nombreuses mines de la montagne, notamment bien sûr celle qui avait le monopole pendant des siècles, c'était la mine de Rancier à Sème dans le Vic de Sceaux.
Voilà. Alors, il nous le dit un petit peu dans le film, hein, Gérard, ce qu'il a retrouvé effectivement les tonnes de production de fer. Mais là, on est vraiment sur la fabrique du fer. Du coup, il était fabriqué en barre, hein, c'est ça?
Oui.
Et il repartait après pour être transformé dans d'autres régions.
Oui, voilà. Le principal travail, la majorité des forges qu'a connu l'Ariège, c'est-à-dire l'ancien comté de Foix, le Couserans et le pays d'Olmes-Mirepoix. L'industrie principale pendant des siècles, ça a été la forge. Et notamment donc cette transformation du minerai de fer à l'aide de charbon de bois en barre de fer. Et ce sont ces techniques qu'on appelait forge à la catalane. L'Ariège s'est spécialisé dans cette technique-là. Elle a fait évoluer. Et on trouve jusqu'au milieu du 19e siècle cette technique qui s'est développée, perfectionnée à l'écart du haut fourneau. La technique du haut fourneau qui s'était généralisée depuis la fin du Moyen-Âge en Europe et qui consistait à fondre du minerai dans le charbon de bois. Là non, en fait, la technique du bas fourneau consistait à chauffer le minerai jusqu'à fondre la roche, qui la gangue autour du minerai de fer, de manière à récupérer une boule, une pâte de fer, une loupe, qui était ensuite martelée avec ces machines qu'on appelait des mailles, des gros martinets, des gros marteaux, bien sûr, mus par l'énergie hydraulique. Et donc, ces pâtes de fer étaient martelées jusqu'à ce que le fer, bien compacté, épuré, soit transformé, comme tu disais, sous la forme de barres, des barres qui étaient ensuite soit exportées, notamment dans la région toulousaine, mais aussi dans d'autres régions, ou alors avec justement la multiplication de certaines forges spécialisées dans la coutellerie, la clouterie, voire aussi beaucoup la taillanderie, hein, les outils. Eh bien, on a trouvé à partir de même du Moyen-Âge où ces moulines fabriquaient aussi, en plus des barres de fer, elles fabriquaient des ébauches d'outils, des ébauches de socs de charrue ou d'arrière, qui étaient terminées sur place dans les villages ou dans les quartiers des villes, des bourgs, par les forgerons qui, eux, avaient leur boutique et travaillaient avec leur marteau sur l'enclume.
Là, et donc, pardon. Toute cette matière, du coup, moi, je reviens sur la construction du film, puisque nos auditeurs ont que leur imagination pour imager tout ça. Comment tu as fait, Valérie, pour montrer
Là, déjà, Philippe, il nous a accueillis une journée entière. Donc, il a forgé un nombre d'outils. Et donc, on voit à l'image qu'il y a des clous sur la fin. Et après, principalement, effectivement, c'est des outils, hein, puisque c'était un peu ce que tu disais, la base à Montgaillard. Mais c'est vrai que donc on a travaillé souvent en gros plan pour être au plus près de la matière. Et voilà, c'est ça aussi qui est agréable à l'image, c'est de voir vraiment le métal en fusion. Et alors moi, je reviens sur ce que tu disais. On est quand même à un moment donné passé du stade artisanal. Quand on dit forge à la Catalane, on imagine quelques personnes dans une petite bâtisse près de la rivière. Mais on voit qu'on passe quasiment à un niveau industriel et que l'Ariège donc produit on note, enfin il y a des historiens qui disent qu'on produit 10% du fer français à un moment donné en Ariège. Donc là ça doit être sur la fin, oui, plutôt alors, la dernière phase, 18e.
On produit beaucoup de fer, en fait c'est un des principaux pays à fer de France, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres, mais c'est vrai que ça a été la principale, la première industrie pendant des siècles. Mais c'est une industrie du fer de l'acier qui est traditionnelle. On ne produisait pas des milliers de tonnes d'acier par jour comme on le fait aujourd'hui, bien entendu. Le fer était rare, le fer était cher.
Et surtout, les forêts aussi, voilà, qui ont été donc déboisées à cause, pour fournir ces fourneaux.
C'est ça. C'est-à-dire qu'une forge, un moulin à fer, une mouline, ça dépend comment on l'appelle, en fait, elle avait besoin d'eau, donc de forêts, charbon de bois, qui était. Les forges étaient, c'est pas moi qui ai inventé le terme, dévoreuses de forêts. Il fallait des hectares, il fallait presque 100 hectares pour le fonctionnement d'une forge chaque année, au 19e siècle. Il fallait des mines de fer, notamment celle de Vic de Sceaux, donc, hein, mais il y en avait aussi un peu partout. Il y a eu jusqu'à une cinquantaine de mines de fer exploitées dans l'Ariège actuel, au cours des siècles, depuis très longtemps en arrière.
Tout à l'heure, on évoquait le son du martinet jour et nuit. Dans le film, tu as fait un choix musical. Tu peux peut-être expliquer, Valérie.
Oui, alors ça m'a été soufflé par Gérard Bérail. Et effectivement, on en a reparlé ensuite. Gabriel Fauré, le musicien, le choix, c'est pas un hasard, puisqu'en fait, dans ses écrits, il dit qu'il a été inspiré par les bruits de son enfance. Enfin, tout au long de sa vie, il a été inspiré par tous les bruits de son enfance. Il faut dire qu'il a grandi une partie à Montgauzy, où son Notre père était instituteur. Et donc, il raconte, en fait, le bruit de ces forges qui remontaient des rivières, de la rivière en dessous. Tu disais, toi, tu situes
ça. Oui, de l'Argette. Oui.
De l'Argette. Et ensuite, et en fait, du coup, ce rythme lui est amené. Alors, effectivement, selon les interprétations, c'est un rythme qu'on entend plus ou moins fort, mais qui est très présent là au début, puisque j'ai repris en boucle l'intro où on n'entend que le rythme. Mais c'est vrai que c'est présent dans plusieurs de ses musiques, et en particulier, je trouvais sur Pavane, c'était très présent, quoi.
Merci d'être venu, merci Philippe d'avoir répondu à notre invitation.
Merci à vous, et puis quand même pour dire, si vous voulez en savoir plus sur les forges à la Catalane et sur cette histoire de l'Ariège, on vous invite à aller donc aux forges de Pyrénées à leur réouverture, puisque maintenant il faut attendre...
Oui, le dernier week-end du mois de mars.
Le dernier week-end du mois de mars, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à dire sur cette histoire-là, et on espère pouvoir continuer à parler de l'histoire du fer en Ariège, des forges du métal jusqu'au titane maintenant puisque on va essayer de faire le grand écart si les entreprises ariégeoises veulent bien nous accueillir entre ces différentes étapes du travail du métal.
En attendant ce deuxième épisode, vous pouvez aussi retrouver le film sur le site de la télé Buissonnière et aussi un complément sur la Gazette en partenariat sur ce projet de série Éco-éléments qui va écrire des articles.
Ah oui, on est en partenariat avec la Gazette sur ce projet. Hein, on a travaillé donc en amont avec eux. Donc Antoine Cochet, le journaliste de la Gazette ariégeoise, est venu faire le repérage avec moi. Et on va travailler à un lien à différentes étapes donc de ce projet. Donc là, en disant, on en est juste au début. Donc on se retrouvera aussi bientôt sur ces questions-là dans la Gazette. À bientôt.
À bientôt. Merci à tous les auditeurs de Transparence.
La télé Buissonnière, un média documentaire et participatif en Ariège.